Je vais me permettre de faire une micro-introduction. Alors pour ceux qui sont jamais venus, donc tous les mardis en fait on se donne rendez-vous ici avec un ensemble de praticiens de différentes disciplines, beaucoup d'artistes, de poètes, cinéastes, mais aussi des journalistes, des chercheurs, des mathématiciens, des physiciens, qu'ils soient affiliés à des universités ou indépendants. Et on essaie un petit peu de croiser des points de vue sur différents sujets. Là, c'est la première fois qu'on tente l'aventure de le tenir en fait pendant l'été. C'est-à-dire qu'avant, on faisait quand même une sorte de pause. Et puis là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer d'avancer un petit peu sur l'été.
Sachant que le mois d'août, c'est toi qui t'y colle, c'est ça?
Le mois d'août, c'est moi qui t'y colle, ouais. Avec Marika. Voilà, et puis il y a aussi un phénomène qui est assez chouette, ça fait quelques sessions qu'on a des résidents en fait, qui sont en train de travailler dans le lieu, qui viennent présenter leurs travaux. Voilà, ce qui donne aussi une atmosphère un peu sympa de comprendre un peu ce qui se passe dans les murs. Voilà, donc ça c'est un peu pour le... Et ça se passe, comme ça je vous donne le déroulé, ça se passe toujours, il y a toujours une présentation, qui est une présentation qui est souvent de l'ordre un petit peu de la discussion, un petit peu dialectique, hein. Je rappelle les règles, on essaie un petit peu de ne pas monopoliser les paroles, que chacun, chacune puisse s'exprimer à temps égal, etc. Je dis ça parce que...
Sauf l'intervenante à qui on donne tout carte blanche pour s'exprimer, voilà. Autant qu'elle veut.
Je dis ça, on ne le disait pas avant, mais on s'est aperçu que c'était quand même pas mal de le rappeler, histoire de faire en sorte qu'il y ait vraiment une parole partagée. Donc il ne faut pas hésiter à prendre un petit peu des notes sur les questions, puis intervenir à certains moments. Ceci dit, s'il y a des notions qui sont complexes, touffues, ou pas forcément, parce que voilà, parfois il y a des notions complexes qui sont manipulées dans ce séminaire, il ne faut pas hésiter à intervenir. Voilà, et puis donc on a une présentation, puis après un repas. Et généralement, tout le monde amène à manger, à boire, et puis on prépare un petit peu avec l'équipe du MIG des choses qui permettent de se faire des petites assiettes sympathiques.
En ce moment, on a beaucoup de restes de la map d'enfer, parce qu'ils sont partis en vacances eux aussi. Ils ont laissé des choux en particulier, ouais. Des courgettes.
On a une collaboration active avec la map qui a lieu tous les jeudis ici. Voilà, ça c'est un peu pour le cadre général et pour le cadre un peu plus particulier. Mais ce soir, on reçoit Anne-Laure Fréant.
Bonsoir.
Merci.
Et Anne-Laure, donc, qui est en résidence depuis une semaine à peu près, de manière un petit peu intermittente ici pour travailler sur un livre. Là, le livre qui est passé, qui va être le sujet qui va nous occuper. Et donc la conversation, enfin Anne-Laure a déjà intervenu il y a quelques mois, je crois en février ou en mars, ouais. On avait discuté de l'ANDRA, l'agence de traitement des déchets radioactifs. Donc on a eu une longue session avec Sylvia Fredrickson, qui participe d'une discussion sur le nucléaire qu'on a régulièrement ici. Donc on a pas mal d'intervenants, intervenantes qui viennent parler de ce sujet un petit peu épineux et complexe.
Et ce sera d'ailleurs le sujet de la prochaine séance, le 18, avec des personnes qui sont des militants qui ont lancé il y a 50 ans un appel de scientifiques contre le développement de cette source d'énergie. Et on va essayer de comprendre avec eux pourquoi le truc s'est quand même parfaitement bien développé.
On est bien parti pour continuer.
Voilà, et qui sont surtout le côté politique, le côté les forces tectoniques qui sont cachées là.
Et c'est un sujet aussi qu'on retrouvera à la rentrée avec Thierry Ribaud qui va venir parler. Et puis d'autres personnes qu'on est en train d'inviter pour poursuivre ce film. Mais on a plusieurs fils de discussion et évidemment on s'intéresse un peu aux grandes infrastructures, aux grands chantiers. Donc là, la résidence de Anne-Laure et puis le livre, c'est un petit peu l'occasion de revenir sur le chantier du tunnel, tunnel sous la Manche.
Oui. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Moi, je tenais aussi à dire merci parce que c'est ma toute première résidence ever.
Ok.
Donc, je vous remercie de m'accueillir et puis de donner un peu de place pour ce genre de projets qui sont un peu entre les projets matériel familial, récupéré, donc hérité en l'occurrence de mon papa qui avait travaillé sur le chantier, et la façon plus globale menée sur les grandes infrastructures, sur les archives. Donc, comme tu le disais, le travail pour l'ANDRA était un peu particulier, c'était dans le cadre d'un master un peu expérimental que j'ai fait à Sciences Po il y a 3 ans. Et on avait des commanditaires. Parmi ces commanditaires, il y avait l'ANDRA. Et donc il y avait un groupe d'étudiants qui a travaillé pour l'ANDRA sur leur question très générale, c'était de travailler sur le programme Art et Mémoire, qui est un dispositif qu'ils ont mis en place raconte parce que c'est vraiment lié avec c'est ce que j'avais dans la tête quand je suis arrivée avec le matériau du tunnel. Et en fait, l'Andra se préoccupe beaucoup évidemment de la sûreté de l'installation, notamment pour être prévu de stocker de manière géologique les déchets donc à Villon, haute activité Villon, où on prévoit d'utiliser la roche en fait pour contenir les radiations. Il faut creuser très profond. Et voilà, et donc le site qui est prévu d'être installé à Bure, eux se posent, alors une petite équipe de l'Andra qui est chargée de réfléchir à la signalétique qu'on va mettre à cet endroit dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, les milliers d'années qui suivront, puisque la radioactivité va rester dangereuse des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, je crois. Et donc ils mobilisent des artistes sur cette question-là très précise de la signalétique. Et donc ils sont venus chercher un groupe d'étudiants dans le master où j'étais pour qu'on réfléchisse à la manière de faire perdurer ce programme, qui est un programme classique d'appel à projet. En fait, où on mobilise des artistes tous les ans depuis 2015, je crois. Enfin, ils ont 5 ou 6 éditions, et voilà, ils ont plein de choses très intéressantes et puis ils ne savent pas trop comment. Et donc voilà, avec ma collègue. Professeure chercheuse en design Sylvia Fredriksen, qui est une spécialiste de la question des communs, qui s'intéresse beaucoup à la question des communs négatifs, notamment, et à la question des archives. Et donc c'est aussi grâce à elle qu'on voilà, on a trouvé ce terrain-là de collaboration pour dire mais pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument constituer une archive, penser ces choses-là 100 000 ans en avance, alors que toutes les choses qui se passent sur le terrain depuis des décennies, à Bure et ailleurs, voilà, toutes les luttes ne sont pas. L'art militant n'est pas inclus dans cette belle archive, cette belle participation artistique. Voilà, c'est très institutionnel, c'est très descendant. Et donc c'est un peu comme ça qu'on est dans. On a fini par, donc avec Sylvia, coécrire un texte que l'Andra devrait publier. Ils avaient dit ça en février, tu vois, en juillet. On attend, je sais pas, je crois que l'édition n'est pas sortie. Je vous l'enverrai.
Alors dire qu'on peut organiser une fête de sortie.
Voilà, il faudrait les informer qu'on peut les inviter si je le souhaite.
Ils sont déjà venus, hein. On a déjà eu l'Andra ici. Hein.
Bah, en plus, je pense que c'est la même, probablement la même équipe, ou en tout cas la même branche. Ils ne sont pas beaucoup à s'occuper du programme de mémoire, enfin, de la question de l'art en général.
Vous avez peut-être connu Dumont, monsieur Dumont, lui, il est parti à la retraite.
Oui.
Donc c'est une dame, je ne me rappelle plus le nom, qui était venue.
Vous avez déjà eu la dame qui l'a remplacée.
Ouais. Elle avait accompagné une artiste qui venait faire une présentation ici. Elle avait un peu chaperonné, voilà.
Voilà, ça résume très bien l'ambiance dans laquelle l'art est convoqué. Donc voilà, on va travailler sur ces questions-là. Et grâce à Sylvia, je me suis un peu éduquée à la question de l'archive autonome, l'archive qui en fait se constitue sans que l'institution n'intervienne. C'est peut-être cette archive-là qui est plus légitime et plus pertinente que. Moins autant que celle qu'on essaye un peu à marche forcée de construire et de penser à la place des générations futures. Donc pour l'instant, on ne peut pas demander. Donc voilà, le lien entre grande infrastructure et la manière dont on va l'archiver, la manière dont on pense la mémoire, toutes ces choses-là, m'avait déjà un peu interpellée. Alors dans le cas du tunnel sous la Manche, qui est un vieux chantier, qui a été fini en 1994, commencé en 1986, et fini en 1994, les enjeux sont très politique, mais pas du tout les mêmes, bien sûr, puisqu'on n'a pas ce côté qu'est-ce qu'on va faire dans 100 000 ans du tunnel, on s'en fout. Les Anglais les premiers, hein, ils ne voulaient pas nécessairement avoir un tunnel au départ. Mais comme il y a eu quand même un accord entre la France et l'Angleterre, c'était au niveau présidentiel, quoi. Ça a été médiatisé, il y a eu le traité de Canterbury, je crois, c'était 2 ans avant, ou 1 an avant, que nos travaux démarrent, donc il y a quand même des enjeux énormes politiques, financiers et techniques, parce que quand même, il fallait creuser sous la mer. Ça s'était déjà fait, je crois, ailleurs dans le monde, mais pas sur des distances pareilles. Et donc les archives que moi j'ai pu trouver avant de tomber sur celles des boîtes du grenier familial, ce sont des archives, c'est un petit peu comme la problématique de l'Andra. C'est l'entreprise qui raconte elle-même sa propre histoire à sa propre gloire. Donc on trouve des magazines parce que nous avons eu cette presse, ça faisait quand même presque 10 000 employés, donc c'était presque une petite ville, donc ils avaient une presse spécialisée en interne. Et c'est très gros puisque c'est un consortium d'entreprises qui s'appelait Transmanche. Donc c'est les 5 plus grosses entreprises du BTP français. Je vais me tromper. Bouygues, FH, Espy, Batignolles, il en manque. Et c'était pareil côté anglais, c'était les 5 grandes de l'époque quoi, qui sont devenues des Vinci. Enfin voilà, tout ça a fusionné depuis, ça a changé de nom. Pas toutes, mais quelques-unes. Financées par toutes les grandes banques européennes et britanniques. Quelque chose d'assez conséquent quand même, et la rhétorique c'était le chantier du siècle. Donc partout dans les médias, partout dans les traces qu'on
dans le financement, il n'y avait pas aussi des petits porteurs, il n'y a pas eu un appel
Oui, après, c'est alors la débâcle des petits actionnaires de Transmanche, oui, est intervenue. Alors, de ce que j'en sais, c'était pas tout de suite.
D'accord.
Mais oui, après, ils ont ouvert le capital aux petits actionnaires. Et spoiler, nous n'avons pas fait fortune avec nos actions retunées. On n'a même pas le droit de prendre le retunnel gratuitement, figurez-vous, en tant que commercial.
En tant que propriétaire.
Voilà, tout à fait. Donc, non, ça n'a pas. Enfin, ça a coûté, comme tous ces grands chantiers-là, beaucoup plus cher que prévu. C'est le même topo que pour le nucléaire. Ils font une estimation de départ. Et puis, bon, c'est quand même très difficile de ne pas rencontrer de problème.
Le facteur, c'est un facteur 2, 3
Je crois que c'est un bon 2,5, si je ne dis pas de bêtises. Pourtant, les délais ont été tenus dans le document là, que j'ai reproduit. Alors, donc ça, c'est une sélection de l'archive de mon papa. Donc il a des trucs intéressants, je trouve, parce qu'il y a des documents, c'est vraiment des mémos, donc c'est interne à l'entreprise. Bonjour, félicitations, aujourd'hui vous avez creusé 49,63 mètres, c'est exceptionnel, félicitations. Des jours où il y a eu une panne d'électricité, plein milieu de la nuit, et où toute l'équipe se fait remonter les bretelles avec un courrier qui dit « Alors oui, mais pour telle raison, il ne faut pas que ça se reproduise, parce que la vie des gens est en danger, les machines, etc. » Parce que bah, c'est des conditions quand même assez extrêmes. Hein. Ils ont creusé, je crois, un puits pour démarrer qui était à 86 mètres de profondeur. Il était très 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 large et ils ont fait rentrer les machines dedans, les descendant comme ça. C'est ça qui m'avait intéressé aussi au départ, c'était un mélange de la vie d'entreprise, la manière, le ton. Là, je trouve assez intéressant de relire ces documents qui datent des années 80, avec la rhétorique un peu d'entreprise, qui n'a pas beaucoup changé, mais qui est quand même un petit peu évolué. Et les conditions un peu de pression et de stress qu'il pouvait y avoir sur le nombre de centimètres creusés par jour, le nombre de pannes, le nombre de litres pompés, etc.
Il a fallu creuser combien de kilomètres en tout
Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est une quarantaine.
Quarantaine.
Alors, c'est pas le tunnel le plus long ni le plus volable, mais en fait, il y a trois tunnels, parce qu'on roule à droite et à gauche, et au milieu, il y a un tunnel de service. Il y a deux, ce qu'ils appellent les crossovers. J'ai mis quelques plans de ça parce qu'on m'a expliqué, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. En fait, c'est des grandes stations, c'est un peu comme les grandes stations de métro à Châtelet, etc., où il y a plusieurs étages, où les trains peuvent se croiser dans tous les sens. Donc il y en a deux, il y en a une proche de la côte anglaise et une proche de la côte française. Et après, il y a les terminaux. En fait, les machines sont descendues à quelques mètres de la mer. Il y en a qui creusent vers la mer, mais il y en a aussi qui creusent vers la terre pour créer une bande douce pour que le train puisse rentrer. Donc c'est un peu plus loin, quoi. C'est presque 2-3 km dans l'arrière de terre. Donc ce qui était intéressant, moi j'ai trouvé avec cette affaire-là, c'est qu'en fait mes archives du coup familiales et les discussions qui ont suivi leur redécouverte avec mon papa maintenant retraité, ont remis en perspective un peu tous les sujets que j'avais quand même un peu évoqué avec Andra, etc. Alors là, il n'est pas question de convoquer l'art pour faire quoi que ce soit. J'ai jamais eu de revendication, en tout cas officielle, de programme lié à l'enjeu de la mémoire en tant que tel, puisqu'il n'y a pas d'enjeu de sûreté particulier. Par contre, je trouve que c'était intéressant parce qu'on retrouve vraiment les mêmes façons de fonctionner, les mêmes. Le grand chantier a vraiment, je trouve, une nature. Il débarque toujours un peu pareil, les pouvoirs politiques l'instaurent et l'amènent de façon similaire. Les grandes entreprises travaillent toutes ensemble et toutes pareilles aussi, c'est-à-dire que la main-d'œuvre est convocable du monde entier. Des fois, on fait venir des ingénieurs qui sont sur un chantier similaire. Les machines aussi. Donc, il y a une cartographie qui serait passionnante à faire, que je n'ai pas réussi à faire là parce que c'est quand même très. Ça va très vite, hein. Puis là, le chantier est vieux. Mais ils ont récupéré des équipements de la mine, par exemple. Quand on était dans le Nord-Pas-de-Calais, les mines étaient fermées. 20 ans plus tôt, il y avait énormément de chômage. Donc dans le Calaisis, quand on leur a dit on va faire un énorme tunnel très médiatisé qui va embaucher beaucoup de gens, ils étaient très. Les territoires étaient quand même assez demandeurs. Donc ils ont enclenché le plan grand chantier, enfin le dispositif grand chantier qui existe toujours, qui est de former la main-d'œuvre locale par milliers. Donc on voit dans les lycées professionnels, on voit dans les instituts qui existent, et l'entreprise conçoit un programme de formation spécialisés pour les besoins qu'ils ont, et ils recrutent comme ça. J'ai d'ailleurs appris que ce dispositif est actuellement mobilisé pour le prochain chantier du siècle, il y en a un tous les 50 ans, donc c'est un peu bizarre, qui est le canal Seine-Nord, Europe. Donc on va creuser un bout de canal entre Compiègne et la Belgique, enfin le nord de la France, pour relier tout le système des canaux fluviaux de l'Europe du Nord à la Seine. Ce qui permettra de faire passer les bateaux jusqu'au Havre, depuis les Pays-Bas, la Belgique, etc. Et c'est un petit peu le même processus, c'est pas les mêmes machines du tout, les canaux c'est pas du souterrain, enfin, c'est très différent comme technicité. Mais je commence à discerner en fait des choses qui sont également présentes à CIGEO, dans le fonctionnement des études préliminaires.
CIGEO, c'est à Bure, le site d'enfouissement de l'endroit.
C'est le site, c'est le nom technique du site d'enfouissement prévu pour les. Donc, très peu, enfin, c'est assez profond, c'est presque comme la mine, c'est 400-500 mètres de profondeur, au moins, pour enfouir les fameux déchets qui actuellement sont dans des bassines vaguement en plein air, quoi, qui sont dehors. Le but, c'est vraiment aussi pour que la filière actuelle puisse se développer. Comme c'est prévu, comme le plan Macron là, le prévoit, il faut absolument que la gestion des déchets soit démontrée comme sûre et qu'on ait une solution spectaculaire pour les années qui viennent. Donc ce projet-là est très intéressant, enfin, très important pour. D'ailleurs, les entreprises qui travaillent sur les études sont toujours les mêmes. Le BRGM fait des travaux, le Bureau des recherches géologiques et minières, qui est basé à Orléans mais qui a du monde partout en France, fait les études préliminaires, donc c'est le cas, ça a été le cas dans le cas du tunnel sous la Manche aussi. Au début du livre, j'ai un dessin un peu bizarre, si vous tombez dessus, vous vous demanderez peut-être ce que c'est. Je ne sais plus quelle place au début. Ça ressemble à une petite fleur. Voilà, c'est un fossile, mais je ne connaîtrais pas, je ne connais plus le nom latin, qu'ils ont utilisé pour déterminer la. Donc à droite, on voit les bateaux qui faisaient des forages, en fait. Ils ont fait des forages en mer pour connaître la géologie sous la Manche. Et le fossile en question a été utilisé pour déterminer la couche exacte de craie bleue dans laquelle on voulait creuser, puisqu'elle était imperméable. Creuser sous la mer, le plus grand défi, c'était ça. Et de toute façon, en souterrain, ils sont tout le temps terrifiés par les venues d'eau. Enfin, le tunnel peut très très vite se retrouver ennoyé avec la machine, le système, etc. Donc, il y a eu un très grand travail préalable pour définir cette couche-là. Parce que juste en dessous, c'est des argiles de boue et apparemment c'est très mauvais pour les machines, c'est mou, c'est très visqueux, donc c'est pas ça. Et la craie blanche qui est au-dessus n'est pas imperméable, donc ça ne permet pas non plus de bien travailler. C'était aussi un peu, moi ça m'a permis d'apprendre aussi qu'avant de creuser des choses comme ça, il y a presque 2, 3, 4, des fois 10 ans de travail, de repérage, différents techniciens qui sont déployés, parfois avec des systèmes, là c'était des bateaux qui étaient qui tiraient des dispositifs, ils ont pu faire des sondages comme ça en avançant, ils en ont fait depuis l'Angleterre et depuis la France. Mais dans le cas CIGEO c'est très différent, en fait. On est dans des couches, c'est de l'argilite, c'est très profond, enfin, ouais, c'est très différent. Mais les techniques mobilisées, et les équipes, les compétences, les machines sont quand même dans un réseau qui m'a l'air je me focalise là-dessus, assez uniforme, et dans le monde entier. Et c'est le même discours, c'est le discours de progrès, le discours d'innovation technologique et de valorisation par des collaborations entre entreprises aussi. Par exemple, dans le cas de CIGEO qui est plus récent, il y a Boston Robotics qui est venu mettre ses robots chiens dans le tunnel, puisqu'on voudrait éviter que les humains aient à toucher les colis radioactives, donc évidemment que c'est robotisé. Là, on était dans une technologie quand même plus ancestrale et plus ancienne, et avec une composante culturelle très différente. Ce qui m'avait intéressé aussi, c'est le passé de la mine, c'est l'impact de la mine et les compétences locales qu'il y avait, pas en creusant sous la mer particulièrement, mais il y a eu aussi des professions très ingrates qui n'étaient pas du tout techniques, qui étaient du marteau-piqueur et de la cloche. Hein. Ils ont fini entre la jonction, quand ils sont arrivés à quelques mètres, la France et l'Angleterre, ils ont fini à la pioche.
Est-ce que ça, justement, la fin à la pioche, c'était pas justement un petit peu pour la para-photographique, c'est-à-dire un peu le côté un peu symbolique de la chose, c'est-à-dire l'effort, oui, au moment d'arriver, avec puisqu'il y a des officiels,
ils sont serrés la patte et tout, voilà. Le Français qui était là, il est devenu ultra célèbre parce que sa photo était partout.
Ils ont dû faire la.
Mais ils pouvaient pas, parce qu'en fait, comme il fallait pas que les tunneliers se rendent dedans, ils ont été. Ils ont dévié la trajectoire, quoi qu'il est passé au-dessus ou en dessous, je sais plus. Enfin, il y en a un qui est passé au-dessus, un qui est passé en dessous. Il fallait effectivement finir commentaire de mon copain ingénieur retraité de dire que c'était une connerie de faire ça. Ils ne l'ont pas refait pour les autres tunnels, les deux autres qu'il fallait faire parce que c'était un travail
le truc diplomatique de creuser des deux côtés en même temps, c'est ça qu'il ne faut pas refaire, c'est ça?
De dévier les tunneliers et de finir à la main. Il dit non, il fallait dévier un tunnelier et que l'autre passe.
Ah oui.
Parce que là, ils ont galéré. Enfin, bon, il y a eu des décisions, voilà, un peu comme ça, qui ont été prises. Mais c'est vrai que, du coup, c'est un chantier qui est intéressant, j'ai trouvé aussi, parce qu'il y a ces deux composantes-là, c'est une frontière. Alors à l'époque, c'était pas la frontière de l'Europe, mais maintenant, ça l'est devenu. Mais il y a eu énormément d'enjeux culturels, de rapport à ce tunnel. Est-ce que l'Angleterre ne sera plus une île? Ça va casser l'insularité du Royaume-Uni. Donc les Anglais étaient vraiment beaucoup moins motivés que nous. Et puis ils n'ont pas eu les mêmes techniques du tout. Ils ont vraiment fait venir de la main-d'œuvre qu'ils ont un peu maltraitée, quoi, qu'ils ont installé dans des campements provisoires à Folkestone, à côté de Douvres, là où. Alors le ferry va à Douvres et le tunnel va à Folkestone. Il y a eu des baraquements voilà, très sommaires, hein, où les ouvriers étaient un peu entassés là vraiment pour la durée du chantier et c'est tout. Alors pas les cadres, hein, mais il fallait quand même aussi des gens pas pour opérer dans les usines, pour conduire les machines de transport, pour beaucoup de choses.
Ça c'est aussi une composante de tous les grands chantiers, enfin, je veux dire, que ce soit les stades, on l'a vu avec le Coupe du Monde du Qatar, on le voit avec les Jeux Olympiques. Enfin, c'est quand même un mouvement qui est récurrent aussi à un moment de dire on prend de la main-d'œuvre et puis enfin, le BTP a comme une violence envers ça.
Ah oui, c'est
pas que anglais quoi. Enfin,
non, bien sûr, voilà, c'est parce que je suis dans ma perspective comparative entre comment ça s'est produit, le côté français, côté anglais pour ce chantier-là. En France, c'est pareil, hein, ils louaient les campings. Donc tous les campings de la côte étaient pleins. Pas forcément en été, mais parce qu'il y avait deux types de main-d'œuvre. Il y avait des gens comme ma famille, carrément, on a déménagé. Moi, je suis allée à l'école à Calais pendant 5 ans, et ma mère est venue à Calais aussi pendant 5 ans, parce que voilà, on a rencontré d'ailleurs d'autres familles comme nous, comme ça, qui s'étaient déracinées, parce qu'on savait que ça allait durer. Quand ils étaient cadres, ils avaient un petit peu plus de chance de rester, ils savaient que ça allait durer plusieurs années. Mais il y avait aussi des gens qui, alors soit parce qu'ils habitaient à Paris ou que la famille ne voulait pas venir, étaient en baraquement la semaine et rentraient chez eux le week-end, ou parfois ils avaient quand même des apparts, ils arrivaient à avoir des apparts, parce que le Calaisie reste assez bon marché au niveau des logements. Donc, c'était une chance de prendre. Dans le Kent en face, ce n'était pas le cas, c'est une région beaucoup plus cossue, beaucoup plus riche, et donc il y avait beaucoup moins de logements disponibles. Donc ils ont très bien logé leurs cadres et puis ils ont un peu foutu où ils pouvaient, on peut dire comme ça, les autres. Mais bon, c'était intéressant puisqu'il y a toute la dynamique aussi portuaire. Il y a beaucoup de machines qui sont arrivées par le port de Dunkerque, par le port de Calais, par le port de Douvres, transportées beaucoup depuis le Japon. Donc c'est beaucoup des machines japonaises qui ont été utilisées. C'est pour ça qu'il y a des indices dans le livre d'écriture et d'objets. C'était vraiment très marqué. Les ingénieurs sont allés à Kobe, c'est le shipyard de Kobe, c'était les Mitsubishi Heavy Industries, je crois que ça existe. C'est là-bas qu'ils fabriquaient les tunneliers, parce qu'il faut des très grands hangars. Donc les anciens chantiers navaux, s'y prêtaient bien. Donc il y a eu aussi, nous on avait des petites japonaises avec nous à l'école, qui ne parlaient pas français, mais parce qu'en fait leur papa, souvent c'était les papas, était ingénieur pour Kobe. Le shipyard. Donc certains, pareil, se sont expatriés. Il y a énormément de gens qui ont des racines aussi, plus ou moins dans des conditions plus ou moins sympas. La plupart, je pense, étaient d'accord, mais les familles étaient un peu contraintes de suivre. Voilà. Mais c'était assez temporaire. C'est vraiment, les ingénieurs étaient assignés à des machines bien particulières. Tu me dis 1, 2, 3, 4. Et ils suivaient la machine quand elle était au moins pour l'assemblage. Et une fois qu'elle creusait, parfois ils repartaient. Chacun avait mais c'est des machines tellement chères et gigantesques qui ne fonctionnent finalement très peu de temps. Donc creuser, je pense qu'en tout, ça a duré 1 an ou 2, hein, de proprement parler, de creuser. 2-3 ans avant, terrassement, préparation, etc. Puis ensuite, habiller le tunnel, mettre les voies, mettre l'électricité, etc. Ça prend encore 1 an. Le creusement en lui-même n'est pas très long et en plus, s'effectue à des cadences absolument infernales. Pas de pause, aucun jour férié. Équipes en 3-8 qui se relaient constamment, et donc côté français à peu près 10 000 personnes. Donc je crois que sur il y a un endroit où j'ai mis une copie du plan, c'est un peu difficile de se rendre compte, mais c'est le plan des installations de Sangatte. C'est là où il y avait ce gros puits, là, qu'ils ont creusé. Et là, ils ont carrément colonisé un champ Ils ont installé une usine de voussoir. Les voussoirs, c'est les... Comment définir ça? C'est des pièces d'anneaux en béton. C'est les... Si vous prenez le métro, vous les voyez. Vous voyez les jonctions entre les voussoirs. C'est des arcs de cercle, en fait, qu'on assemble pour faire des anneaux. Et la machine avance comme ça, en fait. Elle pousse sur des vérins. Elle rabote la terre et à l'arrière, l'espace qui est libéré est aussitôt habillé de ces trucs en béton, de ces pièces en béton. Il faut sceller, donc il y a des gens qui ne font que ça. Ils sont sur des machines exprès pour ça, et le job c'est de mettre les boulons et les vis pour fixer ces boussoirs. Donc ça nécessite voilà, un mode spécialisé, qui encore une fois peut être, je dirais, recyclé pour d'autres chantiers super.
Une question technique, est-ce que tu as une idée de la durabilité de cette construction? Est-ce que ça a été évalué par les ingénieurs? Combien de temps ces boussoirs en particulier vont tenir, sachant que quand il y a du béton armé, il y a une chimie complexe qui fait que ce n'est pas éternel.
Chaque fois que j'ai posé des questions, mon journal m'a répondu « Ah, c'est du béton ». Oui.
Ben justement.
Donc je pense que...
On a vu le pont voilà. À Gênes qui s'est effondré.
Voilà. Parce que le sous-entendu, c'est que c'est donc pas éternel. Après, je pense que c'est assez facile à remplacer. Mais je ne sais pas si ça nécessite de mettre le tunnel hors service. Je ne sais pas qu'est-ce que ça implique de remplacer. Est-ce qu'on peut remplacer sans remplacer un anneau entier? Je t'avoue que je ne sais pas. Parce qu'ils se sont vraiment lancés. La production est arrêtée. Si tu veux. Il y a eu la production des voussoirs pendant le chantier, parce qu'il fallait fournir des machines qui avançaient. Mais il n'y en a plus aujourd'hui, d'usine sur place. Donc ça doit se fabriquer, bien sûr, toujours ailleurs. Mais je me demande. Si ce serait faisable de remplacer tout un... Je pense pas.
Peut-être, moi ça me fait penser, là en ce moment, il y a un vieux chantier de tram en France, je ne me rappelle plus dans quelle ville, qui arrive en fin de parcours, et en fait ils vont être obligés de changer tous les rails, donc, parce que les rails avaient 30 ans d'espérance de vie. Quoi.
C'est peut-être à Nancy, mais j'étais à Nancy il y a quelques jours, ils sont en train d'arracher tous
c'est possible,
ouais. Tous les rails.
C'est une ville un peu comme Strasbourg qui s'est lancée un peu dans des. De manière un peu tôt, comme ça, dans ces espèces de trams urbains, etc. Et tout ça pour rebondir là, justement, sur ces histoires de. En fait, finalement, les grands chantiers comme ça, notamment, enfin, ceux qui ne sont pas de l'ordre de l'éphémère, comme, je sais pas, les JO, etc., les infrastructures qui vont en rester, en fait, c'est vraiment des choses qu'il faut maintenir. Je pense au CERN, par exemple, qui a été vachement documenté par Sophie Houdard. Et elle raconte justement à quel point la machine du CERN, en fait, c'est un instrument qui est constamment en fait en maintenance. C'est-à-dire qu'il est constamment en révision. Il y a des changements, donc tous les étés, ils arrêtent pour remplacer des pièces, etc.
Pour le coup, c'est un tunnel qui fait 27 km de long, ouais. Entre la France et...
Entre la France et la Suisse, oui. Et le bouquin de Sophie est super, s'appelle Les Incommensurables, qui raconte en fait la construction du CERN et la maintenance en fait de chaque section où il y a une infinité de postes et justement toutes ces complexités binationales aussi. Et donc la question c'est qu'effectivement à un moment t'es obligé de mettre à l'arrêt certaines voies, par exemple tu vas remplacer des tronçons puis tu vas avancer, enfin, mais par la nature même de la chose, s'ils veulent laisser durer, il y a énormément de pièces j'imagine à remplacer, etc.
Je pense que c'est infiniment moins complexe que
le CERN,
voilà, parce que là t'as matière qui circule à des vitesses qui n'égalent pas celle de l'Eurostar, même quand il est très en forme. Mais bon, je pense que le tunnel de service, je sais que des fois il sert un peu à ça aussi. Enfin, c'est qu'il y a les trois tunnels de façon à permettre, grâce au crossover, je pense qu'on doit pouvoir fermer temporairement un tronçon pour intervenir dessus. C'est impossible qu'il ne se soit rien passé depuis 30 ans. De toute façon, je pense qu'il y a eu des incendies, il y a de l'électricité, il y a de la ventilation, il y a du pompage. Donc il y a énormément de choses à entretenir. Ce puits aujourd'hui, donc, si vous allez à ce magnifique endroit qui est donc très beau, parce que c'est Sangat, c'est juste à côté de la plage de Sangat, on est à 300 mètres de la mer. Donc ce puits n'est plus visible, toutes les installations qu'il y a sur le plan, c'est pas 98-99, ont disparu. Il reste le cimetière. Alors ça c'est une anecdote, mais c'est rigolo, je sais plus. Ça avait scandalisé le prêtre local, parce qu'il avait très très peur que le chantier vienne perturber le repos des morts de son cimetière. Parce que le chantier est vraiment venu s'installer le long du sermon en rive, quoi. Ils sont vraiment venus au milieu d'un champ, au milieu de rien. Ça, s'installer tout autour et il y avait des articles. Alors, je ne les ai pas reproduits, mais il y avait un article assez rigolo où le prêtre était très inquiet pour le salut des âmes de Sangatte.
Et le chantier lui-même, il a fait combien de victimes ?
Bonne question. Je crois que c'est entre. Alors, côté français, au moins deux. Il y en a peut-être même eu, peut-être que c'est côté. Il y a eu un. Le sujet des accidents et des décès, des blessures graves est quand même, je trouve, assez peu présent. Dans la montagne d'archives que j'ai récupérées, des magazines qui racontent plein de choses, on fait venir telle entreprise, on a créé telle chose, on fait venir telle machine, ça, c'est amplement documenté. Mais c'est vrai que les accidents, bon, il va y avoir une brève, mais ça reste sous, y compris pour le Grand Paris, hein, parce qu'il y a des morts aussi. Parfois, ils vont toujours dire c'est l'erreur humaine. Bon, il y a des gens qui travaillent dans des environnements qui sont très dangereux. Notamment, le risque le pire dans les tunnels, c'est l'inondation ou l'incendie. C'est vraiment ce qu'il y a de pire, parce que plus le tunnel avance sous la mer, plus le temps nécessaire pour évacuer, évidemment, augmente. En tout cas, avant que la jonction soit faite. Et en plus, c'était très rudimentaire pour descendre. Hein, c'était un bassin, comme dans les mines. Une salle dépendue en haut, on mettait suspendait les habits au plafond, et puis un ascenseur comme celui de l'endroit si vous allez visiter, vous êtes allé visiter le labo là, qui est déjà creusé, qui est un ascenseur grillagé, sauf que l'endroit c'est long, parce que c'est profond, et là c'était pareil, en fait le matin on embauche, on monte dans ce truc là, et en bas il fait chaud, plus on avance, évidemment plus il fait chaud, plus si la ventilation, c'est pour ça que les chefs ont écrit un courrier le jour où il y a eu une panne de courant pendant 40 minutes, parce qu'on ne ventile plus. On pompe plus, donc l'air devient très vite très chaud et respirable, et ça peut entraîner des trucs absolument catastrophiques assez vite. Heureusement cette fois-là, je crois qu'il n'y avait pas de soucis, mais c'est aussi des fois, en tout cas quand il y a des accidents, alors j'ai un exemple mais qui ne concerne pas ce chantier-là, mon papa m'a raconté d'un autre chantier, qui doit être celui de la 86 je crois, où il y a eu un incendie à front de taille, c'est-à-dire vraiment dans la machine. Et en fait, comme ce sont des machines pressurisées à l'avant, c'est de l'air comprimé, tu dois passer par un sas de compression et de décompression pour accéder à la cabine de pilotage. Alors c'est très bien parce que ça empêche les flammes. Donc ils ont réussi à courir et à se mettre à l'abri dans le sas. Ils étaient coincés entre la paroi. Et on est aveugle, en fait, c'est une taupe, hein, tu ne lis, on voit rien. Il n'y a pas de fenêtre. C'est une espèce de grand convoyeur dans lequel on marche, une grande machine, et quand on arrive au fond, il y a une cabine de pilotage avec un écran un peu, voilà, et quelques boutons et des trucs GPS, et c'est tout. On ne peut pas voir, puisque la roue tourne en fait devant, et le matériau est évacué par les convoyeurs et le voilier en arrière. Donc il y a un incendie, malheureusement, dans ces conditions-là. Si le tunnel est déjà aménagé, des fois, il y a des petites voies de sortie, comme dans les tunnels routiers, où on peut se réfugier, et fermer les portes. Donc, en l'occurrence, oui, il y aurait pu ce jour-là, apparemment, dans le cas de la 86 qu'ils m'ont raconté, il y aurait pu y avoir une quinzaine de morts. Et c'est le chef d'équipe, apparemment, qui a eu la présence d'esprit de dire non, mais on retourne dans le sas, en fait. Et puis ils se sont retournés, s'enfermer, et les secours ont le temps d'arriver. Mais souvent, c'est très bête, hein, ça va être des accidents par écrasement. C'est pas la partie. Vous voyez, dans les archives que j'ai rassemblées là, j'ai pas trouvé de trace de tout ça.
Et peut-être une petite question aussi pour expliquer un petit peu comment est-ce que tu as conçu en fait le livre, en fait, pour rebondir aussi sur cette question de l'archive sensible et de l'archive singulière.
Oui, pardon, je me suis un peu éloignée du coup, dans les affaires très techniques en fait, mais. Bah, le but c'était de trouver un moyen à peu près digeste, visuellement agréable de parcourir ces archives. Donc là j'ai une sélection évidemment de documents. Et surtout moi je suis allée faire du terrain là-bas, parce qu'en fait je trouvais que c'était très difficile quand j'ai eu les récits, voilà, on m'a raconté plein de choses, etc. J'ai lu plein de choses, mais j'avais envie d'y aller, quoi, d'y retourner un peu, même si ça fait 30 ans. C'est très discret aujourd'hui, hein, dans le voyage.
Donc toi tu étais enfant, c'est ça quand...
Oui, moi j'étais petite, j'avais entre 5 et 4 et 8 ans, quelque chose comme ça. Donc Donc aller à la plage de Calais, ça m'a rappelé des souvenirs voilà, à l'enfance. Ce sont beaucoup d'enfants du personnel à avoir profité de, un peu de ça. Donc le paysage voilà, régional m'évoque des choses. Donc j'ai quand même voulu inclure ça aussi par la photographie pour que ma petite perspective à moi soit aussi un petit peu représentée. Pas pour dire j'y étais ou j'ai vu ça, mais pour dire qu'autour de cette vie, qui est quand même une vie d'usine, hein, qui n'arrête pas, où les papas, en l'occurrence, ne font que de courir pendant 5-6 ans, ils attrapent des cheveux blancs, ils sont toujours énervés. Il y a aussi bah, des vies de milliers, du coup, de familles, d'enfants qui vont à l'école du coup, à Calais, qui rencontrent des gens du coin, qui rencontrent des petits Anglais chez qui on faisait des sorties scolaires une fois par an. Donc j'ai aussi voulu voilà, donner un peu d'air et de remonter un peu à la surface et d'aller me promener, retourner un petit peu sur ces lieux-là, sachant que quand même j'avais eu des discussions avant sur les archives. J'avais ça dans la tête quand même en y allant. Je me suis permis d'aller dans le quartier du bouquin maritime qui est à côté, d'aller à l'école du phare où nous étions tous scolarisés, du coup, parce qu'on n'avait pas d'école. C'est un peu des paysages quand même, enfin, voilà, c'est plus subtil, mais c'est aussi des paysages pour moi du tunnel, puisque c'est quand même. J'ai pas trouvé beaucoup d'autres témoins, mais il y en a sûrement plein, parce que j'ai plus les traces de ces gens-là, mais les gens avec qui j'étais à l'école, qui doivent avoir mon âge à peu près aujourd'hui, je pense que nous, on a des souvenirs à peu près similaires. Ils sont allés, en tout cas, aux mêmes endroits, et ont vécu un peu dans le même... fait la même expérience, une expérience proche, en tout cas, de ce qu'on a pu vivre. Donc c'est aussi ça qui m'avait intéressé, parce que, bah, comme tu disais, tous les grands chantiers sont un peu dans ce schéma-là, et donc je me demande ce que ça produit, aussi. Chez les générations bah, déplacées ou accompagnantes. Ces expériences-là, on les connaît peut-être encore moins que celles des gens qui font le boulot dans les chantiers. Et de toute façon, même les perspectives individuelles des travailleurs n'existent pas dans les archives. C'est vraiment... c'est une machine, quoi. C'est une usine, c'est une machine. Et tous les statistiques que vous souhaitez ne pas avoir sur le tunnel sont disponibles. Aucun problème. Mais alors, les expériences vraiment... moins voilà, de pouvoir accéder à quelqu'un qui raconte. Ce serait peut-être ça la deuxième étape de ce projet, ce serait d'aller faire de l'ethnographie un peu plus sérieusement, d'aller retrouver tous ces gentils monsieur retraités aujourd'hui, leurs épouses et leurs enfants, pour avoir un peu de matériel de récit. Quoi.
C'était vraiment très très genré en fait. Les papas.
Le souterrain, c'est encore aujourd'hui, hein, le BTP en général, et le souterrain encore plus, apparemment. Et dans les années 80, on en a pas de Calais, oui. Mais même à l'Andra, hein, il y a quelques femmes ingénieurs et géologues dans les bureaux d'études, mais la majorité des travailleurs, je dirais, à la fois mécaniques et techniques, ça reste dominé fortement par les hommes. Donc cette culture-là était très 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 forte. Hein. On a eu des nouvelles d'entreprise avec des jouets, les 5000 camions pour les petits garçons, 5000 poupées pour les petites filles. Et c'est une culture quand même très particulière. Il n'y a qu'une seule fête qui a de la valeur dans l'année, c'est la Sainte-Barbe, le 4
les
décembre,
sapeurs, ouais.
Qui est la fête des sapeurs, des artificiers, de toutes les gens qui touchent le feu, qui font péter des trucs, pour le dire vulgairement comme on me l'a expliqué. Donc il y a toujours une petite... c'est décrit dans un article d'une journaliste, je crois, au début. Il y a une petite niche avec cette petite Sainte-Barbe à l'entrée de tous les tunnels, en construction ou construits, même qui existent, hein, dans lesquels on peut passer en voiture au tunnel du Mont-Blanc et à la Lune.
Et qui était Sainte-Barbe?
J'ai regardé, mais je ne me souviens plus. C'est vraiment... j'aurais bien aimé inclure... je ne l'ai pas trouvé, la photo. Elle est relatée par, cette, voilà, par cet article d'une journaliste qui est descendue, page 11. Mais je l'ai vue en faisant des recherches sur les mines, sur les tunnels, notamment alpins. Ça en parle beaucoup.
Du coup, il y avait une fête où toutes les familles étaient invitées.
La Sainte-Barbe, oui. Alors, je sais pas si c'était tous les ans qu'ils ont arrêté les machines, mais je crois que c'est le seul arrêt qu'il y a en général, d'ailleurs, sur tous les chantiers souterrains, c'est la Sainte-Barbe. Donc, on met des ballons dans les tunnels. J'ai trouvé une photo que je n'ai pas reproduite ici, mais qui était assez extraordinaire, d'une machine avec une grosse excavatrice avec des pointes à l'avant. Enfin, c'est un truc assez spectaculaire, avec des ballons de toutes les couleurs au-dessus, et puis des gars qui fument ils fument leurs cigarettes et ils boivent un petit verre devant la machine. Et puis voilà, ils faisaient une grande Noël d'entreprise quand même. On était plusieurs milliers dans un grand hangar, là, c'était vraiment le bal. Quoi. C'était un peu le bal populaire, rencontre de nouvelles entreprises. C'était assez. C'est le seul truc vraiment qui se retrouve dans tous les. Je serais curieuse de savoir si la CGO ils vont faire la semaine. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vient de la culture des mineurs. C'est un truc des mineurs. Apparemment, le choix de la Lorraine, on m'avait dit, n'était pas anodin parce qu'il y avait un bassin d'emploi, des gens qui disposaient de ces compétences pour le soutenir.
Tout à l'heure, tu as parlé des archives autogérées, indépendantes de. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Quels sont les autres exemples de projets qui s'auto-archivent indépendamment des structures académiques, officielles, etc.
Ce tunnel-là, je serais bien embêtée parce qu'en fait, donc, l'association qui. Il y a une association qui existe qui s'appelle l'Amicale des bâtisseurs du tunnel sous la Manche.
Wow.
C'est tout à fait transparent. Donc, si vous allez à Calais en passant par la Coquelle, ils ont mis des parties de tunneliers sur des ronds-points pour marquer un peu l'histoire du chantier. Et sur l'un d'eux, on voit en hommage aux bâtisseurs du tunnel par l'Amicale. Donc c'est vraiment eux qui s'occupent de cette mémoire. En fait, c'est que des anciens chefs de chantier, chefs de service. Donc c'est très. Donc ils ont un site, ils ont fait le travail d'archives, qui du coup est indépendant puisqu'elle n'est plus propriété de l'EFAG, elle est vraiment publique. Ils en ont déposé une partie aux archives départementales du Nord-Pas-Calais aussi, en fond iconographique et tous les documents qu'ils ont même écrits eux-mêmes, parce qu'ils ont fait des synthèses techniques et tout. Mais voilà, c'est même eux, ils ont vraiment une vocation fidèle, exhaustive, fidèle, technique, objective, de la chronologie, des machines, des hommes. Donc ils ont fait le gérer, ils ont fait le boulot. Tu vois, un peu. Donc moi, j'ai pas voulu essayer de faire comme eux. Et au début, je les avais contactés en me disant que ce serait intéressant quand même de voir un peu ce qu'ils font et tout. Et en fait, il y a un tel degré de maîtrise de leur côté. De ce qu'ils font, que je me suis dit, je vais me faire, comme avec mon cher papa, je vais me faire écraser par les faits, les données, les trucs techniques, et on a fait comme ci, on a fait comme ça. C'est très intéressant, mais c'est relativement bien documenté, c'est relativement. C'est fait. Depuis 30 ans, en plus, ça a le temps de se structurer.
Mais quels sont justement les moyens d'archivage à long terme? Parce que ces personnes sont à la retraite,
sont âgées.
Et en vrai, je pose la question parce qu'avant d'arriver ici, on est dans un lieu qui est une sous-station électrique dans le 11e arrondissement, très vieux bâtiment industriel, et je suis tombé justement sur une personne d'EDF il y a très longtemps qui avait archivé les 20 stations, sous-stations parisiennes. Leur site web est tombé en désuétude à ma connaissance et ce savoir a disparu avec ces personnes.
C'est tout à fait la même situation, je pense, parce que les gens ils arrivent à la retraite. Après, je ne sais pas s'ils ont prévu une transmission, comme ils ont fait un dépôt aux archives, on peut supposer que dans ce dépôt-là, il est quand même safe, il est sûr. Mais c'est vrai que tout ce qui est en ligne, je ne sais pas du tout, ce que ça va donner. Et je ne sais pas si, comme ils n'acceptent que des employés ou des anciens employés, je ne sais pas s'ils ont prévu une stratégie pour renouveler le bureau de l'association, pour avoir des descendants plus jeunes ou des gens qui s'intéressent aujourd'hui, je ne sais pas.
Et du côté anglais, il y a des projets d'archives aussi
ou... Et ce sera le chapitre 2 de cette intervention, parce que j'aurais bien aimé faire la même, enquêter un petit peu là-bas, parce qu'il n'a pas encore été possible. J'ai commencé, comme tout le monde, au plus proche avec ce que j'avais, mais c'est vrai que j'aimerais bien voir un peu ce qu'il y a comme trace là-bas et quelles institutions se sont emparées du sujet. Parce que je suis sûre qu'il y a des archives privées, d'entreprises, mais elles sont opaques et on ne sait pas qui, à quoi, où. Et je ne suis pas sûre, comme les sièges déménagent eux-mêmes énormément, qu'ils aient tout précieusement conservé.
Après, on imagine que ceux qui ont accès aux documents, c'est plutôt les classes supérieures des travailleurs. Ceux qui promeut c'est les archives, c'est la fierté de.
Tout à fait.
Montrer,
Oui, c'est un peu ça qui m'a un peu. Je me suis dit, bon, je ne vais peut-être pas aller voir que eux tout de suite, parce qu'en fait, ça va. Parce que oui, ce sont des gens qui étaient assez haut placés dans la direction du chantier, en fait. Donc oui, il y a clairement un truc de fierté très, très assumé de dire, il faut absolument c'est notre patrimoine, quoi. Il faut qu'on le... Alors que je ne sais pas du tout, ce serait intéressant de connaître le rapport à qu'est-ce qu'on gardait avec eux, les gens qui étaient plus ouvriers ou chefs d'équipe, ou qui avaient des boulots moins sympas. Est-ce qu'ils ont chez eux des cartons comme ça, un peu précieusement conservés? Est-ce qu'ils ont même connaissance que ce truc-là, l'association existe? Moi, je suis persuadée qu'ils ont tous des petits bouts de cailloux, des petits bouts de mes documentaires et tout ça. Je trouve que c'est le rapport sociologique ou social à l'archive, il est hyper intéressant, je pense, pour tous les grands chantiers. Hein. Après, parce que celui-ci était très médiatisé, quoi. Il y a quand même eu un retentissement certain. Mais il y en a plein d'autres pour qui c'est le cas aussi. Donc, je pense qu'à la fin de leur carrière, ils doivent quand même tous avoir des petites choses, quoi. Et je me demande quel est un peu le rapport à ça. Est-ce que ça va être transmis? Est-ce qu'ils en parlent? C'est des gens qui héritent de ça, mais qui n'ont pas eu le récit qui va avec. C'est un peu abstrait, peut-être.
Et comment s'est réveillé ce récit entre toi et ton papa? C'est toi qui a...
Oui, ben, je crois que on est tombé sur les boîtes en rangeant des choses. Et voilà, j'avais dit que je lui avais dit j'aimerais bien voir un peu ce que t'as pour me faire une idée, quoi, de ce qu'il y avait. Ben, au final, il n'y avait que 3 boîtes. Donc carrément, je les ai emmenées. Je les ai emmenées, elle m'a dit non, tu prends tout. Et j'ai potassé un peu et après j'ai eu plusieurs discussions au fil des mois. Mais un ingénieur reste un ingénieur même à la retraite, donc c'était très intéressant, mais c'était très difficile de décrocher ou de décoller du récit technique. Donc c'est très intéressant, mais il y a beaucoup de choses que je ne suis pas en capacité de comprendre, de vous relater correctement, donc je m'abstiens. Mais il y a aussi c'est difficile d'avoir, d'aller chercher autre chose que des éléments de chronologie, de machinerie, à quelle heure quelle machine est arrivée. Comment marchent les choses. Donc, j'ai du mal à sortir de ça. C'est très intéressant quand même. Voilà pourquoi le détour aussi par la photographie et par. Parce que je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'exister un peu dans cette affaire, d'amener autre chose. Quoi. Mais ils ont une mémoire technique, c'est comme si c'était hier. Ça, c'est un patrimoine aussi, je pense, hein, pour tous les gens qui ont travaillé sur des chantiers plus ou moins complexes ou précis, avec les machines de l'époque, parce que mon papa, il était geek, donc il avait codé un logiciel, le premier logiciel qu'ils ont finalement utilisé pour le système de guidage des machines. Je vais demander le code source, mais j'attends toujours, parce qu'il faut redémarrer les bonnes machines. Voilà, je trouve qu'il y a aussi ça, il y a aussi un patrimoine qui n'est documenté absolument nulle part. Du magazine Transmanche.
Pour la partie logicielle, il y a vraiment des gens qui seraient intéressés, je pense. Il y a des collectionneurs de vieux codes comme ça.
Ah oui, même. Moi, je voulais l'intégrer dans cette première version, mais ce serait pour la prochaine. Oui, c'est intéressant.
C'est-à-dire que même si tu n'arrives pas à le faire tourner sur une machine, tu, si tu as, je ne sais pas comment, un listing ou un truc. Comment ça se présente?
Oui. Moi, je me souviens parce que quand j'étais du coup petite, je voulais jouer à l'ordinateur, je ne pouvais pas, parce qu'il y avait des images bizarres de machines, dans des couleurs suspectes, sur fond noir. Et je pense qu'il était en train de tester le système, et comme ça marchait bien, apparemment ils l'ont adopté. Je pense qu'il y en a eu plein, des petites innovations comme ça technologiques qui sont complètement anonymes en fait, qui au final ont servi. Probablement que pour ce chantier-là, je pense, parce que ça a bougé tellement vite que ça a dû évoluer ensuite. Voilà.
Non, juste une petite question, parce que tu disais que c'était un peu un point d'étape en fait dans le projet, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, toi, c'est plutôt une recherche qui est... C'est plutôt une façon d'amorcer une recherche ou de lui donner une sorte de formalisation avant de passer à la prochaine étape et...
Oui, je l'ai un peu vu comme une étape intermédiaire, sinon je vous remercie encore une fois parce que le fait d'avoir le symbole, d'avoir la résidence et la date fait que je me suis dit il faut que j'ai un objet. Et donc ça m'a poussé à avoir une première collection. Mais bien sûr qu'il y aurait matière à d'une part collecter plus de matériel faire des recherches aussi plus approfondies sur beaucoup de choses, aller faire le terrain chez nos amis anglais, entre autres. Donc voilà, après je ne sais pas si je m'aventurerai sur l'ethnographie parce que c'est vraiment un travail d'aller chercher les personnes, faire des entretiens, ce sera passionnant, mais j'ai peur d'ouvrir un truc qui finira jamais. J'essaierai d'en retrouver peut-être quelques-uns ou quelques-unes pour avoir des textes qui seraient intéressants, je pense, pour enrichir un peu cette affaire qui est plutôt visuelle pour le moment. Et puis, mais oui, je pense qu'il y aura au moins une deuxième, peut-être une troisième édition, mais avec. J'ai le sentiment que l'enquête, oui, n'est pas finie. Là, c'est un peu ma première appropriation du matériel qui dort depuis 2-3 ans dans mes cartons.
Je pense que c'est ça, parce qu'en fait, là, on a reçu, il n'y a pas 30 ans, un collectif qui s'appelle Échelle Inconnue, et donc qui travaille sur ce projet, qui est le projet de l'axe Seine, donc qui est censé, donc c'est un axe qui est en train d'être justement promu comme une espèce d'enjeu justement du siècle. On va organiser des capitales européennes de la culture dans différentes villes sur le trajet. Justement, il y a pensé à donner une personnalité juridique, ça s'inscrit tout à fait dans ce projet-là, en fait, c'est-à-dire un détournement des armes, qui étaient traditionnellement utilisées par les milieux écologiques pour protéger en fait des milieux là qui sont détournés de manière à même la nuit blanche cette année se déroulait sur ce thème-là. Avec cette espèce de projet un peu pharaonique de rivaliser avec le port de Rotterdam et d'Anvers à l'échelle du Havre, en connectant Paris au Havre et avec un ensemble d'infrastructures qui sont posées. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est, en faisant le parallèle avec les deux projets, c'est effectivement, je pense qu'il y a un besoin de décrypter, on parle beaucoup de greenwashing, de réappropriation du langage low-tech, etc. Je pense qu'il y a un vrai travail d'analyse à faire sur le langage en fait, de ces grands chantiers. Parce qu'effectivement, en fait, ils ont beau se reproduire, c'est toujours les mêmes arguments, et on nous promet toujours mons et merveilles, et on nous dit ouais, mais ça va booster le tourisme, ça va faire ci, ça va faire ça, enfin il y a toujours un. Puis en fait, on s'aperçoit que derrière, les coûts sont mésestimés, qu'il n'y a pas d'encadrement du travail, enfin il y a un ensemble de problématiques qui sont récurrentes, qui sont rarement finalement adressées, que en fait, chaque grand chantier, c'est. Pour traiter comme une opportunité pour les régions, alors que généralement, dernièrement, c'est plutôt les régions qui payent. Et donc peut-être, je ne sais pas, il y aurait quelque chose à faire, peut-être sur le langage, parce que peut-être aussi en mode un peu comparatif sur justement cette mémoire entre ces... C'est vous qui parliez, je crois, quand vous étiez venu de ce collectif qui faisait la mémoire des luttes sur le nucléaire et qui transmettait avec des différentes manières, justement, ces archives un peu sensibles là, qui se déplacent.
Oui, mais c'est vrai que la rhétorique, c'est vraiment, c'était le point central du travail qu'on avait fait avec Sylvia, le discours, même si on n'a pas fait d'analyse systématique, parce qu'ils employaient le mot mémoire pour parler de sûreté, c'est encore un cas très particulier, mais c'est vrai que c'est des entreprises de conquête, c'est vraiment toujours la même chose. Les résistances sont vues comme rétrogrades, c'était même le cas, il n'y a pas eu beaucoup de résistances, il y en avait quand même un petit peu, quand tu mets sous la manche au début, et se fout. Balayé par le même argument à chaque fois, c'est de dire mais non, vous vous mettez en travers du progrès, quoi, soyez raisonnable. Et puis de toute façon, derrière, il y a tellement d'argent et d'emploi et de choses qui bougent dans la région, c'est un bouleversement aussi qui est très, je trouve, très brutal et très rapide. Parce que le chantier, une fois qu'il est fini, tout ça s'en va. Ça dure quoi, 4, 5 ans, 10 ans pour des trucs vraiment très ambitieux, quand ça se passe pas bien. Mais derrière, oui, comme tu dis, les emplois des fois restent, mais pas tous. Sur les 6 ou 7 000 ou 10 000 là, de la Manche, les autres qui voulaient continuer, je pense ensuite continuer à déménager, puisque c'est une vie nomade après. Quand on est sur ces métiers-là, on s'engage un peu à suivre les chantiers partout où les machines, la vie. Après, il y en a qui sont restés, mais effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une. On mesure jamais très objectivement et de manière fiable à chaque fois, concrètement, il y a des retours. Et la durabilité de l'ouvrage, parce qu'avec le réchauffement climatique, notre ami sous la Manche commence à être aussi un peu. C'est plus la montée des eaux sur les côtes, parce qu'une fois que le terminal est. Si d'aventure il est envoyé, même une fois de temps en temps, c'est un problème qui. C'est fini après. Enfin, c'est très compliqué, je pense, d'assurer une maintenance suffisamment sécuritaire de l'ouvrage pour que. Ça perdure, donc ce ne sera pas dans 20 ans, mais dans 30, 40, 50, plus loin, tous les tunnels sous-marins et ou ceux qui sont situés dans des lieux un peu exotiques comme la Norvège qui veut faire toute sa côte. C'est pas le chantier du siècle, mais c'est 10 fois plus gros que la Manche. Et eux, ils veulent faire tout le littoral, parce qu'ils ont un littoral de, je crois, plus de 1200 km, avec des fjords. Mmh. Les gens trouvent que c'est très pénible, les fjords, parce qu'il faut faire tout. Donc c'est très long. Et donc il y a un projet pharaonique, pour le coup, qui serait de creuser 6 ou 7 tunnels sous la mer, et à travers la montagne, de façon à pouvoir parcourir agréablement l'intégralité de la côte dans sa voiture. Et je crois que c'est déjà financé, c'est parti quoi. Et c'est pareil, tu vois, il y a pas de... Oui, ça va créer des emplois, etc., mais pas au prorata de 83 milliards, ce chantier-là. Et ça va prendre une décennie ou deux, je sais pas exactement.
Parfois, on peut penser que c'est l'objectif, là j'imagine, c'est de la fiction, et ce n'est pas de faire une super rocade en Norvège, mais de développer l'industrie pour d'autres usages cachés au grand public.
Oui, moi c'est sûr que je pense qu'il y a des répercussions. De toute façon, dès qu'on accomplit un peu un exploit, moi je pense qu'il y a aussi une course à la valorisation industrielle, à l'innovation, c'est de la compétition. Hein. Dès qu'il y a un défi un peu comme ça, on va creuser sous la mer, on va creuser le plus long truc du monde, le plus profond truc du monde, ils se battent pour être les premiers et à poser le nom de l'entreprise sur la machine qui va le faire. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait déplacer des familles, des gens, parce qu'il faut aller très vite. Et puis il faut y aller, plus c'est médiatisé, plus c'est en norme, mieux c'est. Après, je sais pas comment ils réemploient il doit y avoir des éléments précis qui sont réemployés pour faire autre chose, mais je ne sens pas, ça ne me vient pas tout de suite.
Il y a un chantier qui mobilise beaucoup de tunneliers en ce moment, c'est le Grand Paris. Est-ce que tu as des infos?
La carrière de mon papa s'est arrêtée, c'était lui mon principal informateur, et il a raté lui, il s'est arrêté un peu avant le début du Grand Paris.
En particulier, il y a un enjeu de où on met les déchets. On s'aperçoit qu'en fait, c'est assez mal connu et qu'on retrouve des piles de déchets un peu partout.
Ouais.
Enfin, c'est pas des déchets très toxiques, mais c'est comme des déchets. C'est pas non plus de la terre agricole, donc quand tu mets ça à l'extérieur, c'est...
Le volume est énorme. Dans le tunnel sous la Manche, ils ont fait un lac qu'on voit au début du livre. C'est sur les photos de famille, donc on se promène le week-end là-bas, on voit que c'est une espèce de terrassement où il n'y a pas d'eau. Quand je reviens 20 ans, 30 ans plus tard dessus, en fait, ça a formé un lac. Alors c'était de la craie bleue délayée, voilà, donc ils ont fait un espèce d'observatoire de phytosociologie pour observer comment les plantes colonisaient ce milieu calcaire. Mais c'est du calcaire, enfin voilà, c'est un peu différent, les volumes étaient... important mais pas monstrueux, sachant que tu as de la, comment dire, une région où il y a de la place, et bien, voilà, ils ont fait une digue qui est quand même énorme.
Ouais.
Mais aujourd'hui, quand tu parcours le paysage, tu as un lac, une zone naturelle protégée. Alors que oui, dans les chantiers terrestres classiques, notamment en Île-de-France où c'est argileux, ils ont ouvert des sites, je crois, exprès pour aller stocker cette terre. J'ai vu qu'il y avait des recherches pour la réemployer également. Mais je pense qu'en termes de volume, c'est pas...
Ils sont en train de combler les carrières.
Voilà, ils bougent tout le peuple.
Oui, mais c'est des endroits historiques aussi qui ont leur certaine valeur.
C'est terrible. C'est où, là, c'est de laquelle, cette carrière?
À Meudon. Mais il y a aussi des trafics plus louches de terre qu'on envoie assez loin, en très lointaine banlieue.
Bah, chez moi, dans la campagne du Saint-Ménard, il y a des sites qui ont été ouverts exprès. Ils sont assez moches.
L'un des promoteurs du Grand Paris, là, c'est le Grand Bac, lui avait l'idée de faire une sorte de mausolée, enfin de mausolée, c'est pas le mot, de sculpture que l'on voit en avion quand on arrive au-dessus de Paris, de faire une sorte de colline artificielle dont la géométrie serait représentative de quelque chose. J'ai appris ça grâce à Échelle Inconnue. Hein.
Donc, oui.
Ça, il faut se replonger dans leurs documents.
C'est assez atroce d'ailleurs.
On pourrait faire des fortifications.
Une sorte de visage.
Il faudrait faire les...
une sorte de visage que tu vois d'avion.
Ouais, ça semble un peu presque le deal avec EasyJet en fait, c'est-à-dire tiens, t'arrives en EasyJet et tu vois en fait un smiley qui sourit, t'es à Paris, enfin, il y avait un truc comme ça qui était assez atroce hein, dans l'imaginaire que ça déploie en fait, la façon de le penser.
En Angleterre, à Folkestone, ils ont fait un cheval. C'est une œuvre d'art, c'est pas un réemploi, mais c'est un cheval de roche, quoi, qu'on voit depuis le ciel. Effectivement, les volumes, on ne se rend pas compte, mais comme il y a beaucoup de tunnels qui creusent en même temps, parce qu'il y a ça aussi, là, il y en avait deux de chaque côté, quoi, à peu près. Donc on a le temps, le plan était quand même déjà là, et on avait relativement le temps d'évacuer. Le Grand Paris, je pense qu'ils ont commencé clairement sans avoir pas tout réfléchi d'un coup, je pense qu'ils avaient réfléchi par...
Il y a eu un manque de tunneliers, il y a eu un moment, il fallait dans le monde entier chercher les machines.
Parce qu'il y a, pas, il y a beaucoup de fabricants, enfin il y a des fabricants, mais c'est tous les mêmes, encore une fois, et je pense que c'est quand même une machine, c'est comme un navire, c'est long quoi, à construire. Et malheureusement, creuser bousille inévitablement les machines du tunnel sous la Manche, elles ont été... Il y en a une qui est murée dans le tunnel, il reste que on appelle la jupe, c'est-à-dire le cylindre qui est autour, ils ont retiré toute la... C'est parti à la ferraille hein, pour les trois quarts. C'est ça qui est triste, quoi. C'est des machines qui coûtent des millions, qui ont été fabriquées à l'autre bout du monde, acheminées par bateau, démontées, remontées, descendues dans un tunnel avec des grues, des machins, réassemblées. Ils ont mis 6 mois à les mettre en route, creusées 6 mois, poubelle. Mais je crois que pour le Grand Paris, c'est pareil. Ils doivent peut-être ce qu'ils ont fait dans le tunnel, sous la Manche, ils ont retourné un. Il y en a un qui est arrivé et qui est sorti à Coquel. On l'a mis sur des coussins d'air, on l'a retourné. Il a recreusé l'autre bout. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. Hein. C'est fini, quoi. Ce qui est dommage.
On a la visite de Michel, qui arrive un peu après les débats. Mais c'est pas grave. On va peut-être justement passer à la partie.
C'est ça, j'ai trouvé la. Je vous montre quand même vite fait la possible fresque qui nous attend en arrivant en avion.
Voilà.
C'est le magnifique projet.
C'est un vrai projet,
c'est pas du tout une blague.
Ça arrive un peu après la bataille.
J'ai pris une photo des œufs de meuf.
Tu peux me permettre. On allait passer à.
Voilà, donc reste à voir si ça sera, si ça sera fait. Ouais.
Intéressant.
On parlait du tunnel, du creusement des tunnels sous la Manche.
Oui, c'est ça. J'avais lu le sujet.
En parlant de tunnelier, il y a juste un truc qu'on n'a pas dit dans la série Masculinisme. Je termine sur cette anecdote, mais tous les tunneliers portaient des prénoms de femmes. De préférence, la femme du patron ou la femme du chef de service ce jour-là. Ils sont baptisés comme des bateaux, avec une bouteille de champagne qu'on jette. Donc il y a Virginie, Stéphanie, Brigitte.
Brigitte, quoi, ils en parlent dans l'article. Ouais.
Et celui qui est arrivé dans un sens qu'on a retourné et qui est reparti, il a changé de nom. Entre-temps, parce qu'on considérait que c'était un nouvel être. Donc il y a aussi un truc très affectif et très étrange à la machine, en tout cas au tunnel. Je pense que c'est un peu le gigantisme aussi qui joue à jeu, mais il y avait des articles de journaux sur les ouvriers qui pleuraient quand ils devaient les démanteler. Ouais. Tu vois, t'es quand même attaché un peu à la bête, quoi. Ça m'avait interpellé.
À 21h05, on peut peut-être enclencher un... partie dînatoire.
Ouais, déjà on va te remercier, merci pour l'intervention. Et puis on applaudir. Et puis je crois que tu disais qu'il y avait peut-être un exemplaire qui pouvait rester à la librairie, parce qu'on constitue une petite bibliothèque avec le MIG, donc qui sera disponible pour la consultation. Et merci, c'est super.
Ben, merci pour votre accueil, et puis merci de votre courage à écouter parler de tunnel par une chaude soirée de juillet. Merci à vous.
Merci.
Et puis, salut Pinot.